Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez
du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau.
Bonjour, nous sommes à table avec Bertrand Tavernier pour une deuxième étape dans un voyage gourmand au sein du cinéma français, puisque c'est voyage dans le cinéma français, c'est le titre de votre dernier film qui est présenté à Cannes Classique au 69e Festival de Cannes, Bertrand Tavernier. Et ce que j'aimerais, c'est que vous nous entraîniez dans les cuisines de Jean Gabin.
C'était un rude mangeur. Je pense qu'il y a une époque dans sa vie où il s'est laissé aller. Je ne sais plus, c'est à l'époque du Grisby, où il a cessé de faire attention à sa ligne. Et à table, c'était impressionnant. Il commence, moi je l'ai vu une fois, commencer son repas par une grande assiettée de tripes. Il disait, c'est bon, c'est naturel, ça fait pisser. C'était la suite était consistante. Mais donc à table, il savait se tenir à table. Il adoptait bien ce dicton de la sagesse lyonnaise qui dit « faut mieux prendre chaud en mangeant que froid en travaillant ».
Pourtant, c'était un acteur qui savait travailler. Le geste du travailleur était le sien.
Oui, je pense que c'était quelqu'un, j'ai essayé de le montrer dans mon film, ça, c'est quelque chose qui pouvait s'emparer de n'importe quel métier. Et instantanément, on savait qu'il l'avait exercé depuis 15 ans. Que ce soit un cuisinier dans le formidable film de Duvivier qui est « Voici le temps des assassins ». Sa manière de se comporter dans les halles, mais aussi sa manière de se comporter dans le restaurant, de savoir parler aux clients avec exactement l'autorité, mais aussi le charme qu'il faut pour faire passer. Quand à un moment, il y a une cliente américaine qui veut commander Coca-Cola, il dit, mais madame, ici, ce n'est pas une pharmacie. Il a une manière de dire la réplique formidable.
Et la façon qu'il a de parler à quelqu'un pendant qu'il fait quelque chose d'autre.
Oui, oui. J'ai monté une scène où c'est impressionnant, où on le voit commencer à élaborer un plat tout en ayant une longue discussion avec Daniel Delorme. Et en même temps, on sent qu'il dirige son restaurant, que les gens ont l'œil fixé sur lui, qu'il est attentif à tout ce qui se passe, aux frites de la Troie. C'est très impressionnant. Et il y a plusieurs scènes de repas. Il y a la fameuse scène de Touchez pas au Grisby où, moi sur mon blog, il y a des débats interminables de savoir est-ce que c'est du foie gras ou du pâté de canard qu'ils étalent, lui et René Darry, sur des biscottes, je crois. Là, c'est une scène, une merveille, cette scène. Et là encore, c'est le côté extraordinairement français de Jacques Becker. Parce que cette scène-là, vous la voyez jamais dans un film américain. Comment, à travers cette scène, Becker indique quels sont les rapports entre les deux personnages, l'amitié, les gestes quotidiens qu'on fait, d'étaler.
Je vous vois faire les gestes, vous êtes en train de tartiner.
C'est une scène qui me fait, je vois cette scène, j'ai immédiatement envie d'aller me faire une énorme lichette de foie gras, c'est immédiatement, ça vous donne envie. Il y a beaucoup de scènes de repas dans le cinéma français. Pour des raisons très simples, c'est que c'est des moments de convivialité, c'est des moments où les gens se disent des choses, et c'est des moments qui expriment aussi formidablement l'état de la société. Il y a celle de la salade de pommes de terre de Renoir, où tout d'un coup, à travers une recette de cuisine, on entendit, et il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre quand elles sont bouillantes. C'est une scène sur l'antisémitisme. Sur les rapports de classe entre les domestiques et les maîtres. C'est à travers une recette de cuisine, c'est tout un état de la France de l'époque que Renoir aborde.
Quand vous entendez ces voix, en plus, ces voix gouailleuses, ces voix, c'est des voix gourmandes aussi.
Ça a été un des bonheurs de ce film, la beauté des voix. La beauté des voix d'hommes, Gabin, Vanel, ou des voix très populaires, Carette, qui dit « Et le général Rochambeau !» Il y a aussi toutes ces voix de femmes. La voix de Darieux, c'est magnifique. C'est une actrice archi-géniale. Elle, je ne sais pas si elle a eu un César d'honneur, mais elle le méritait plus que Scarlett Johansson.
Bertrand Tavernier, quand vous parlez de tous ces films avec Tarantino, vous faites ça autour d'une table ?
Son goût le porte plus vers le hamburger. Mais il sait apprécier des plats. Il n'est pas comme les Américains qui sont... Je me souviens des mines offusquées de certains romanciers américains du Parc, que l'équipe de Quai du Polar avait convié à un machon, et devant le tablier de sapeur ou le gras double, c'était des choses qui leur paraissaient. Et même le boudin. Le boudin est une chose que beaucoup d'Américains refusent. C'est pour eux, c'est blood sausage.
Dans les spécialités lyonnaises, vous préférez le gras double, le machon
Le tablier de sapeur ou le gras double, je dois dire que je peux en prendre, c'est pas... Mais, non, moi, ce que j'aime mieux le...
Reprécisez pour nos auditeurs américains...
le gras double.
Les particularités.
Le tablier de sapeur, c'est un peu des abats, des riz panés. Et qu'on sert avec une sauce.
Ça se prend au petit déjeuner. Hein.
C'était quand les journées de travail avaient 14 heures, 15 heures, quand les canuts, quand les ouvriers, là comme ça, qui se levaient très tôt, avaient besoin d'une pause. Dans le cinéma, on avait adopté une chose comme ça, qu'on appelait le casse-croûte machinot. Parce que on arrivait très tôt le matin, quelquefois en ayant crapahuté à travers les collines de l'Ardèche, et on était là depuis 2-3 heures, et vers 8h30-9h du matin, 9h, la cantinière, l'admirable Henriette, qui était une des légendes du cinéma français, amenait des caillettes encore chaudes. Ça, c'est le souvenir du jugé assassin. Et ça, c'était l'adaptation dans le cinéma français du Machon lyonnais. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère.
Bertrand Tavernier. Si l'on revient à votre ami Claude Sauté.
Oui.
Vous aviez rendez-vous avec lui à la brasserie Marty.
Oui, on ne quittait pas le 13e. Lui, c'était un adepte du 13e et de la brasserie Marty. C'était un homme de brasserie.
Parce que lui, il a beaucoup filmé les scènes de table.
Ah, énormément de repas coraux. Le repas n'est pas simplement un repas. Pour des gens qui bossent beaucoup, c'est un moment de faire le point. C'est un moment où les rapports vont ou dérailler ou se consolider. C'est soit des repas de famille, où tout d'un coup, comme dans Vincent François, il y a des crises tout d'un coup. Le repas est une manière formidable de faire émerger une crise. C'est aussi une manière de souder une collectivité, de rendre les gens proches les uns des autres autour d'un vin. C'est admirablement montré dans Garçon, dans toute la partie qui est sur la brasserie. Le travail collectif qui fait là de Sauté vraiment l'héritier de Becker, la scène où l'ensemble du personnel de la brasserie va dîner chez le nôtre, c'est formidable. Et moi, j'étais confronté à ça quand je faisais des films. Très souvent, dans les films de métier, les films où les gens bossent, ce qui a été le cas aussi, beaucoup de mes films, on est forcé d'inclure des scènes de repas parce que c'est là que les choses vont se dire. Les flics de L627, qui mangent d'ailleurs très très mal, Mais quand même, ils vont se réunir autour d'un couscous, ils vont se réunir autour d'un repas, on va se faire griller des merguez dans le terrain vague qui est à côté de la DPJ. C'est une pause qui permet de regarder ce qu'on est en train de faire.
Bertrand Tavernier, sous la régence, les choses ne se passent pas que sur la table.
Non, les petits soupers fins. Quand j'ai entrepris ce film, j'ai tout de suite été frappé par le fait que le régent avait eu déjà plusieurs malaises cardiaques et pourtant il continuait. Et moi, je me suis dit, je suis scénariste, j'invente un truc, parce que pour moi, c'est une interprétation très logique. C'est un homme qui cherche à se suicider.
Il n'y a aucune raison. C'est une autre version de la grande bouffe.
C'est une certaine manière, c'est une autre version de la grande bouffe, avec en plus plein de plaisirs sexuels qui étaient là, les courtisanes qui allaient sous la table, etc. Mais c'est important. Moi, dans tous les films que j'ai faits, j'ai essayé d'attacher une grande importance à la nourriture et je faisais à chaque fois des découvertes. Au début du jeu assassin, on prépare non seulement des caillettes, mais on fait ce mélange formidable qui consiste à mélanger des pommes de terre râpées, de l'ail, des fines herbes et un œuf. La crique en Ardèche, là, c'est un peu comme le rosti. Là. Ça, c'est quelque chose que j'adorais faire. Et j'avais fait des découvertes extraordinaires sur la nourriture du XIVe siècle quand je faisais La Passion Béatrice. L'importance... D'abord, j'étais stupéfait de découvrir que les gens se faisaient livrer des huîtres à l'intérieur des châteaux et ils les prenaient chaudes. Ils les faisaient chauffer dans l'âtre, les huîtres. Et aussi, l'importance prodigieuse du safran, qui était considéré non seulement comme une épice, mais comme un médicament, quelque chose qui était bon pour la santé. Donc, le lait lardé au safran, qui était quelque chose qu'on gardait, qu'on préparait, et après qu'on sortait, qui se conservait dans des caves, et quand on le sortait, on le faisait frire. Les plats étaient jaunes, orangés, les plats avaient une couleur, ça. Et c'est l'époque où on découvre la pâtisserie. Le dessert, il n'y avait pas de dessert dans la cuisine avant.
Jusqu'à la Régence.
Le dessert est venu des croisades. Les gens sont arrivés tout d'un coup avec des idées de pâtisserie au miel, au sésame. J'avais écrit, moi, une scène où Robert Derry disait que c'est la seule chose qui ramenait des croisades. C'était pas l'idée du tombeau du Christ, c'était les desserts. C'était les pâtisseries qui étaient tellement bonnes.
Les pâtisseries orientales.
Oui. Les pâtisseries orientales. Et c'est la découverte des pâtisseries orientales. C'est aussi pendant, et ça, moi, j'ai toujours été fasciné par ça, pendant le règne des papes à Avignon, qu'on découvre qu'on peut manger de la salade. Et je me suis toujours demandé comment on avait découvert ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a vu un truc pousser, qui a décidé qu'on le mangeait. Avant, on ne mangeait, on ne faisait cuire que les racines, en pensant qu'il y avait des choses, que tout ce qui était racine était connoté peut-être avec le diable.
Diabolique, oui.
Diabolique. Et tout ce qui, par contre, venait du ciel, qui venaient des arbres, étaient des choses qui se mangeaient. Mais la salade, pourquoi est-ce qu'on attend autant de temps avant? Et quelle est... Quoi, il y a eu une personne qui tout d'un coup s'est dit « Ah ben, on va manger ça ». Et donc, ils l'ont mangé comment au début? Comment? Avec... il y a quelqu'un qui a inventé en même temps la vinaigrette. Donc, mais c'est un truc qui me... J'adore réfléchir... Et c'est quand on réfléchit sur des choses comme ça qu'on touche, on rend l'histoire très, très, très vivante. On la rend pas livresque, on la rend pas abstraite. L'histoire, elle est faite pour moi, de choses comme ça qui sont importantes. En découvrant ce qu'était la nourriture au Moyen-Âge, je comprenais le fonctionnement de certains, le pourquoi de certains comportements sociaux. On comprenait aussi que l'évolution du goût. Je trouve que c'est tout à fait passionnant.
Et vous trouvez que ça, dans le cinéma français, on le, on le vit différemment que dans le cinéma américain. Vos amis américains, ils...
C'est-à-dire, moi j'avais fait un... Je me souviens quand j'étais cinéphile, que j'ai créé, j'avais fait un article sur la nourriture dans le western, qui était souvent basique, hein, et le café notamment. Le café, je me demande... on disait que le café était bon quand un fer à cheval pouvait flotter dedans.
Ça, c'est dans Lucky Luke aussi.
Oui. Et le café, d'ailleurs, servait... très fréquemment à éteindre le feu de camp.
Hein. Dans les westerns, oui.
Oui, dans les westerns. Mais il y a 2-3 westerns. J'en rappelle, on avait été frappé au Nickelodeon quand on avait projeté Joe Dakota, où il y a un type rentre et demande du vin. Il y avait tout d'un coup cette originalité. Il y a même un western sur les Basques qui vont planter de la vigne en Californie.
La caravane vers le soleil.
Oui, de Russell Rouse, avec hommage aux Basques bondissants, parce qu'à la fin, les Basques attaquent les Indiens et se défendent à coups de chistera, qui est un film
assez... C'est hommage, je veux dire, à Jean Borotra ou...
Oui, c'est... Il y a quelques films où il y a des repas raffinés, qui sont généralement le fait d'étrangers, quelquefois de personnages donc maléfiques. Hein. Je me rappelle que Claude Rains, dans un mélodrame qui s'appelle Deception, ordonne des menus vraiment formidable, genre...
Il joue souvent les Français, Claude Rains.
Oui, mais là, je crois qu'il jouait un Américain, mais vraiment assez diabolique, et il choisit attentivement un pommard ou un meureau, et il commande des pintes. Il y a toute une série de menus, et c'est... On associait quand même, en Amérique, l'extrême culture avec une menace, avec la menace. C'est généralement le fait des grands repas, c'était les grands seigneurs que Robin des Bois allait combattre. C'est tandis que les hors-la-loi, les gens, eux, mangeaient des cuisseaux à pleine main qu'ils avaient fait cuire sur du feu de bois, quoi, je veux dire, en gros. C'est... Mais il y avait plus de raffinement, sauf chez les émigrés. Les émigrés américains, de Luby, là, les scènes de repas, les boissons sont convivialisées. C'est un moment, d'ailleurs, où le champagne français se vendait énormément parce que les films que faisaient Lubitsch, Billy Wilder, tous ces metteurs en scène-là, étaient remplis de scènes où les gens ouvraient des bouteilles de champagne. Et ça a disparu avec la disparition des cinéastes émigrés, le champagne a disparu du cinéma américain.
I figured it just isn't right to drink champagne in matador pants. Would you mind fastening my straps in the back?
Oh, sure, sure.
Potato chips champagne. You really think you can get it open?
Oh, yeah. I've opened one or two before in my life. It's simply a matter of pressure and counterpressure. There she goes.
Boy, you sure got powerful thumbs.
I used to play a lot of badminton. Get the glasses.
Okay.
Quick, the glasses.
Les acteurs d'origine italienne, comme Lino Ventura, ils avaient une relation particulière aussi avec...
Oh bah, un type comme Lino, la nourriture était cruciale. C'était crucial, on a fait des repas. Quand on déjeunait avec Lino, on s'est occupé de beaucoup de films, de Ray, de Sautet, de films avec lui. Donc je le voyais souvent.
Quand vous étiez attaché de presse.
Oui, j'étais attaché de presse. Et Lino, on faisait attention quand on choisissait un restaurant, parce que oui, celui-là, je pense qu'il va aimer. Je me souviens d'un repas merveilleux qu'on avait fait chez Max rue de Castellane. Et Lino, il avait une habitude, il rentrait dans le restaurant à ce moment-là, il soulevait la nappe et il disait, je veux d'abord m'assurer que la hyène soit pas sous la table. C'était Melville.
C'était Melville, oui.
C'était Melville. Donc, il venait, il faisait une vérification, ce qui montrait quand même que les rapports étaient un peu tendus. C'était formidable. On racontait une histoire que Lino, un producteur, avait voulu... avait dit à Lino, toi tu fais très très bien les pâtes, mais moi je crois, ou le couscous, je sais pas toi, c'est ou les pâtes ou le couscous, et lui dit, mais tu vas voir, je vais t'inviter, je vais en faire un et je vais t'épater, je crois que je vais te battre. Et Lino y avait été, puis avait dit, reste producteur. Hein? Après avoir goûté ce que l'autre avait fait, qui avait été napalmé en une phrase, parce qu'il était, laconique, mais il fallait pas... Il ne fallait pas lui promettre un truc qu'on ne tenait pas, Lino. Question
mais
nourriture.
Sauter le film, d'ailleurs, d'une façon impressionnante, quand il le regarde manger.
Oui.
Il le regarde manger seul, en plus.
Oui, mais C'était un cas particulier, Classe Touriste. Parce que Classe Touriste, c'est la profonde originalité du film. Déjà, c'est la dureté, l'âpreté qu'il y a dans le film. C'est que c'est un film sur la déchéance. Sur un homme qui a été une forme de, dans son monde, un héros, un homme important, en tous les cas, et qui est en train de chuter. Il doit se priver, les repas deviennent plus furtifs, la nourriture. Et ça, c'était, je trouve que c'était l'originalité de ce film qui, à l'époque, avait été accueilli comme si c'était du tout venant, comme si c'était un film ultra classique. Ça s'inspirait d'un gangster réel qui était un personnage était plus effrayant que celui que joue Lino Ventura. Sautet m'a toujours juré qu'à l'époque, il ne savait pas qui était Abel Davos. Il l'a découvert 10 ans ou 15 ans après avoir fait le film, qu'en fait, c'était un boucher. C'était un type qui était mêlé au pire crime de la collaboration.
C'était une histoire de Giovanni, hein, c'était.
Oui, c'est sur Giovanni, qui avait connu Davos en prison à un moment où on parlait pas de ses crimes. Mmh. Il l'avait connu que dans un état de manque. Et c'est ce qui intéressait Giovanni. C'est un mec qui a été puissant et Giovanni se foutait de ce qu'il avait fait.
Et chez Becker, vous montrez une scène dans le voyage en cinéma, une scène de communion en prison.
Oui, par les repas, par la nourriture. Mais c'est important, il y en a plein de scènes de la nourriture qu'on essaye d'acheter à la libération. Le morceau de viande qu'on échange contre un peu d'essence. Becker monte le prix de la nourriture. Il y a même une scène formidable de Falbala où il dit ici ils font de très très bons camemberts et allez, je me fous du camembert. Mais c'est un détail qui est très savoureux. Mais ça, c'est Becker, il savait ça. Il savait ce que c'était le poids de la. Ayant vécu aussi l'occupation, il connaissait l'importance de la nourriture, l'importance d'un plat, l'importance du fait de manger, comment dire, dans une atmosphère qui soit pas trop tendue. Il savait ça, et ça ressort de son cinéma, ça imprègne son cinéma.
Si vous retenez une image à table avec un cinéaste,
j'ai envie de dire Claude, j'ai envie de dire Chabrol, que j'adorais j'adorais aller à table. Mais non, il y en a plusieurs. Il y a eu les Italiens. Les Italiens, c'était formidable. Formidable. Dino Risi, Mastroianni. Arpac, Mastroianni, c'était une merveille.
Mastroianni qui disait d'ailleurs que c'était beaucoup plus important pour lui de faire la pasta pour les amis que de tourner dans un film.
Ouais. Oui, mais enfin, c'est la pudeur aussi. Oui. C'est-à-dire parce que c'est des gens qui prenaient leur métier très, très à cœur. Mais une partie de la politesse, et c'est aussi ce qu'avait Noiret, ça consistait à ne pas faire étalage de cette importance. C'est-à-dire de faire comme si tout ça c'était normal, on n'avait pas à en parler. À l'époque, au festival de Cannes, il y avait un restaurant où on se retrouvait beaucoup, tout le monde.
La mère Besson.
Qui a été, moi j'ai connu aux grandes heures de la mère, des gens qui étaient adorables, très proches du Parti communiste. C'était le lieu où tous les critiques communistes, aussi bien les critiques italiens, espagnols, il n'y en avait pas tant que ça, mais italiens, français, venaient se retrouver à la mère Besson. Et elle, la mère Besson, c'était formidable. C'était formidable. Moi, j'ai eu des problèmes de logement, j'ai habité au-dessus de la mère Besson. Elle m'a tout de suite donné sa chambre. C'était les endroits où on pouvait changer chez elle, si on était à la bourre, pour aller là. C'était et le layado, les plats quand on avait l'omelette aux poutines, les sardines à l'escabèche. J'ai d'ailleurs son livre de recettes, moi, la mère Besson. Et de temps en temps, je fais des sardines à l'escabèche, j'adore ça.
Et vous avez une Bible aussi qui sont les 200 recettes secrètes de la cuisine française.
Je l'ai acheté en 65. C'est un livre qui était, à l'époque, il y avait le Club français du livre, où j'ai acheté beaucoup, beaucoup de volumes. Et ce livre est anonyme. Et il contient 200 recettes, et j'en ai fait beaucoup. Et je dois dire, c'est là où j'ai découvert le gigot de 7 heures. Tout un certain nombre de plats de volaille, de plats d'agneau, la daube. Alors les deux recettes de daube, soit au vin blanc, soit au vin rouge, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Et surtout, mais quelquefois, d'arriver à panacher les deux. Mais ils donnent des conseils que j'ai toujours suivis, qui pour certaines volailles très délicates, de toujours commencer à four froid. et de ne pas mettre de matière grasse et de l'arroser constamment avec de l'eau tiède, avec du sel, du poivre et quelques épices. Moi, j'ajoute quelques épices que je vais acheter chez Rollinger, qui est à côté de chez moi, qui est quand même un des endroits... C'est un de ces endroits de civilisation qu'on peut trouver à Paris.
Bertrand Tavernier, comme disent maintenant les grands chefs, quel est votre plat signature ?
Je sais, mais ceux que j'ai fait récemment, je peux dire, c'était une daube, et un arichtiou. Alors, j'ai soi-disant, dans ce livre, il y a l'arichtiou, soi-disant la recette de James Joyce. Donc, ce qui permet d'exhiber une culture littéraire, hein, et de faire ce plat. Un jour, j'aimerais bien faire le comédien de Pagnol, la Blavette, a écrit un livre qui s'appelle Ma Provence en cuisine. C'est difficile à trouver, mais qui mériterait une émission à lui tout seul, ce bouquin, Ma Provence. Et il donne la recette du pot-au-feu de Rému qui vous laisse rêveur. La quantité de légumes et de nourriture, à laquelle il ajoute, je crois, une volaille, des pieds paquets, des pieds de mouton, des trucs comme ça. Et Rému disait, s'ils ont pas assez, on fera des pâtes.
Et alors, votre recette de daube, qu'est-ce que c'est?
Moi, j'ai essayé dernièrement celle au vin blanc. C'est la provençale où on rajoute le vin blanc petit à petit pendant toute la cuisson. Demi-verre par demi-verre. Jusqu'à ce que ce soit. Je la fais moins maintenant, la cuisine, puis les gens veulent manger plus léger. Enfin, mais encore que c'est des plats très léger. Très léger. C'est ce qui précède qui est bien, c'est le marché. C'est la discussion avec les gens chez qui vous achetez le plat. C'est les plaisanteries qu'on échange. Moi, j'aurais du mal à me passer de faire le marché.
Et par rapport au film,
quand mon épouse a écrit une dramatique sur Châteauneuf-du-Pape et comment Châteauneuf-du-Pape c'était la première AOC. J'ai beaucoup vu les vignerons et je dois dire que les vignerons, je pense, sont les gens qui sont les plus proches des cinéastes. Ils ont la même passion pour arriver à faire quelque chose qui ait de l'excellence et qui ait une particularité, qui ne copie pas forcément la mode. Moi, les discussions que j'ai eues avec des vignerons de Châteauneuf ou de Bourgogne, certaines des personnes qui a filmé Jonathan Nociter dans Mondo Vino, moi je retrouve, quand je les entends parler, de leur passion, de leur crainte, de l'arrière-goût qu'ils vont vouloir trouver là, je m'identifie totalement. On fait le même métier qu'eux. Moi je fais le même métier que ces gens-là.
Merci beaucoup Bertrand Tavernier, merci pour ce voyage gourmand dans le cinéma. Et alors je sais pas si on peut trouver toujours le livre de vos parents, Ginette et René Tavernier.
Comme ça, ils l'auraient dit trompe-tête, faut le marquer.
Cuisine lyonnaise, mais une curiosité, une rareté.
Oui. On apprend que l'empereur Claude, mon père, c'est que le premier grand consommateur de cuisine à Lyon a été l'empereur Claude.
Claudius,
qui a été un goinfre énorme, ce qui a permis d'ailleurs à Agrippine de pouvoir l'empoisonner tellement il mangeait.
Je voudrais juste trois petits Beaujolais, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi.
Merci. Alors, 420, monsieur.
Merci.
Et avec ça ?
C'est tout, merci.
Merci bien. Je vous prie.
Non, c'est bien comme ça. Merci bien, madame. Donnez-moi dans la cervelle.
Le fait ou pas, monsieur?
Oh non.
Non, 2-3-20.
Oh, peut-être avec pistache.
Avec pistache.
C'est notre anniversaire de mariage.
Voilà, 5-3-20, monsieur.
Je vais régler aujourd'hui. Paye à vous.
Oui, merci. Au revoir, monsieur.
Attention.
Salut, Victor.
3, 4.
Il va nous donner 2 cervelles à Salah. Oui. Bonjour, monsieur.
Plié, tendu la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Manon Houssin. et la mise en onde, Dan Pérez. Je tiens à remercier aussi Jean-Louis Laprune qui nous a accompagnés dans cette aventure. Et vous pouvez réécouter cette émission éternellement, comme le cinéma. Et vous pouvez aussi la podcaster pendant un an. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey!